I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose de découvrir le parcours de Fabrice Gauthier qui est l'ostéopathe des stars NBA, la Ligue américaine de basketball, mais aussi de l'équipe de France de basket. Fabrice est installé avec sa famille à Los Angeles depuis 1999. Il nous explique comment il en est venu à se tourner vers la médecine et plus particulièrement vers la médecine du sport, ce qui l'a amené à déménager dans la ville de Los Angeles, la ville des étoiles, la cité des anges à la fin des années 90, comment une fois arrivé là-bas il a redémarré sa carrière de zéro et comment le bouche à oreille l'a amené à devenir l'ostéo de l'équipe de France de basket qui est devenue elle-même championne d'Europe en 2013. À l'heure où je publie ce podcast, il est d'ailleurs en quarantaine pour la reprise de la saison NBA fin juillet pour s'occuper et accompagner Rudy Gobert, qui est le pivot titulaire des Utah Jazz, une équipe qui joue encore le titre NBA pour la fin de cette saison. Un grand merci à Fabrice pour cette disponibilité. J'espère que cet épisode vous intéressera. Si vous aimez Histoire de succès, j'ai besoin de vous pour trois choses. Tout d'abord, inscrivez-vous à ma newsletter. Je vous mettrai un lien direct dans les notes de cet épisode. C'est primordial pour moi de pouvoir vous joindre directement à l'heure où les algorithmes des réseaux sociaux sont un peu capricieux. Je vous écrirai régulièrement pour vous donner des nouvelles du podcast et plus généralement de mes projets. Ensuite, si vous avez un Mac ou un iPhone ou un iPad, allez donner une bonne note à ce podcast en tapant Histoire de succès directement dans l'application Apple Podcast. 5 étoiles, un commentaire sympa, ça me permet de voir si vous aimez mon travail et ça permet à Histoire de succès de gagner en visibilité dans le classement d'Apple Podcast. Enfin, dernière chose, venez mettre directement un commentaire sur cet épisode sur le site www.histoireavecunsdesucces.com. Ça vous prendra deux petites minutes et ça me permettra d'avoir un retour de votre part. Vous l'aurez remarqué, c'est les vacances, donc je fais une petite pause estivale dans le podcast, mais je compte vous proposer des rediffusions d'épisodes passés. Ça sera l'occasion de les découvrir ou de les redécouvrir. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain pour un best-of de l'été, mais d'ici là, je vous souhaite une bonne écoute en compagnie de Fabrice. On est avec Fabrice Gauthier. Salut Fabrice!
Bonjour.
Comment ça va?
Super. Je viens de faire 2 heures de vélo. Je suis en pleine forme. Bonne bouffe. Oh. Et là, c'est 11 heures du matin à Los Angeles. Et parfait.
Bon, cool. Alors, Fabrice, pour resituer un petit peu qui tu es kiné de formation, c'est ça?
Kiné et ostéopathe, ouais.
Et ostéopathe aujourd'hui. Et on va dire expatrié aux États-Unis depuis fin des années 90.
Ouais, depuis 99. On a bougé avec ma femme en février 99.
Enfin, moi, je t'ai connu en tout cas parce que je suis le basket depuis très longtemps. Ouais. Et à l'époque, j'avais suivi ton parcours, notamment avec l'équipe de France. Mm-hmm. Et je pense que tu t'es fait connaître notamment en France, surtout par rapport à ça. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, si j'ai bien compris, t'as aussi évolué dans le monde de la NBA, du basket professionnel et d'autres sportifs aussi.
Exactement. Disons que le pied à l'étrier, il a été mis. En fait, il a été mis par les Français qui faisaient du motocross. Motocross professionnel, c'était le premier qui m'a trouvé sur internet, sur le site du consulat, c'était Steve Boniface, et puis il m'a envoyé Sébastien Tortelli et puis les autres. Donc c'était le premier un petit peu sport, alors que moi je venais du basket, j'avais joué au basket pendant 12 ans. C'était le premier sport qui m'a un petit peu remis le pied à l'étrier dans le monde de la kiné du sport à Los Angeles, parce que je connaissais personne. Donc quand je suis arrivé, c'était pas du tout ça. Et puis, Ronnie Turiaf s'est fait drafter par les Lakers.
Ronnie Turiaf qui a été un joueur de… Je resitue un petit peu parce que les gens ne sont pas forcément des…
Donc, en fait, Ronnie Turiaf, c'était un des premiers Français à être drafté en NBA, au même titre que Tony Parker, Boris Diaw. D'ailleurs, ils étaient à l'école ensemble à l'INSEP. Et en fait, mon premier patient était le correspondant de l'équipe pour la NBA. Donc, il me dit, il y a un Français qui s'est fait drafter, viens, on va aller voir, c'est la Summer League. On le rencontre, on devait manger ensemble 2 jours après. Et en fait, il se trouve qu'il a dû avoir une opération à cœur ouvert. Il avait une aorte qui était trop large. Et finalement, on a fait le repas, le dîner, 6 mois plus tard, quand il commençait à revenir et qu'il a rejoué avec les Lakers, quoi. Et on a très vite sympathisé, et une bonne relation d'amitié qui s'est créée. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré Boris, puis Tony. Et j'ai commencé, ça c'était en 2005. Donc j'ai commencé à travailler vraiment avec Tony en 2009. Et c'est le moment où ils ont relancé l'équipe de France de basket. Ils ont changé tout. Ils ont décidé, et les joueurs avaient demandé d'avoir un ostéo. Et donc c'est tombé sur moi, quoi. Les Tony, Boris et Ronnie ont dit qu'ils avaient un mec qui était pas trop mal aux États-Unis. Et puis on s'est mis d'accord. Et puis voilà, quoi.
Bon, on va revenir sur tout ce parcours-là un peu plus tard, si tu veux bien. Mais en fait, moi, je voudrais bien revenir vraiment à qui t'étais. L'une des premières questions que je pose tout le temps à mes invités, c'est à quoi ressemblait Fabrice quand il avait 7-8 ans? Vraiment, quand t'étais gamin.
J'en parlais avec ma femme il n'y a pas longtemps. J'étais dans ma chambre, je faisais des puzzles, je jouais au Playmobil. J'étais soit le week-end et les soirs, j'étais soit à l'entraînement de foot de mon père ou des matchs de foot de mon père, soit au tournoi de volley de ma mère. Donc j'avais cette partie un petit peu introvertie qui restait tranquille dans sa chambre et qui faisait ses petits trucs dans son coin, les puzzles, les Playmobil, mais aussi j'avais un bouquin de médecine, d'anatomie, et j'étais tout le temps en train de le feuilleter, et j'avais une vieille bande Velpo, et je m'amusais toujours gamin à me faire des straps de cheville.
Ok.
Tu vois, donc comme quoi ça tombe jamais trop loin, quoi. Et donc, l'autre aspect, ça a toujours été vraiment le sport. Donc, le sport à travers mes parents, à travers ma sœur. Ma sœur était en sport-études, athlétisme, en hand. Donc, toute la famille, ça a toujours été très sportif. Les vacances, c'était en camping-car, en Corse, à marcher, faire du volley, tournoi de ping-pong. Enfin, bon, c'était toujours très, très, très actif. Et au fur et à mesure, donc le premier sport, vers 7-8 ans, le premier sport, ça a été le football.
Okay.
Mais j'avais une tête de plus que tout le monde, donc football, on me mettait derrière, quoi. Libéraux, pas le droit de passer le milieu du terrain. Tu prends un but, tu te fais engueuler parce que c'est forcément de ta faute.
Hyper ingrat.
Voilà, donc après 2 ans comme ça, et mon père était avant-centre, il était très très bon avant-centre en plus, il marquait beaucoup de buts. Donc mon truc, c'était je voulais vraiment marquer, quoi. Donc 2 ans comme ça, après j'ai été faire gardien de but, qui m'a beaucoup plu. J'étais même pas trop mal. Et à partir, je sais plus quelle âge, ça devait être vers 9-10 ans, tu passes sur le grand terrain.
Ouais.
Donc, retour derrière. Et là, à ce moment-là, il y a une visite chez le médecin, visite de contrôle, qui me dit que je commençais à avoir un début de syphose, scoliose syphose d'attitude. Et il me dit, tu devrais peut-être essayer le basket, c'est un sport en extension. Ça peut être pas mal pour toi, comme en plus t'es grand. Alors, ok. Donc, mon père m'emmène à un entraînement de basket. Je prends le ballon et je savais pas encore ce que c'était, mais je fais vraiment un bras roulé, un skyhook, tu vois, et ça tombe dedans, quoi. Donc tout de suite, ah putain, c'est pas mal. Et la coach à l'époque, t'apprennent les rudiments, mais ce que je me souviens, c'est qu'à un moment, on démarre un petit match d'entraînement et la phrase qu'elle dit, c'est passez-lui le ballon, il est grand, il va marquer.
Ah, et ça?
Et pas plus. Et donc, à partir de là, je suis tombé amoureux du basket, tombé amoureux. Après, à travers Maxi Basket, je suis tombé amoureux des Lakers et de Magic Johnson.
Maxi Basket, qui était un immense magazine de basket de référence.
Ouais. C'était le seul à l'époque et c'était vachement intéressant parce qu'il traitait à la fois du basket français, européen et américain. Et donc, on n'avait pas encore la NBA sur Canal, donc tout ce qui arrivait du basket américain, tu avais l'impression que tout était tellement magique avec des mecs qui étaient plus grands, qui allaient plus vite, des vraies histoires derrière tous ces gars-là. Et donc, je suis tombé vraiment amoureux des Lakers et de Magic Johnson. Et de la même façon, c'est à travers Maxi Basket où j'ai découvert mon joueur français préféré à l'époque, c'était Freddy Hufnagel. Je me souviens des soirées à 10h30 sur la 2 à voir les matchs à la Moutette. Et dans Maxi Basket, j'avais lu l'histoire de Richard Dacoury qui avait pas pu aller à l'Euro parce qu'il avait son concours de kiné ou quelque chose comme ça. Et c'est là où la kiné a fait, je devais avoir 13 ans, et où le mot kiné et le plan B kiné dans le sport a commencé à faire son petit chemin aussi. Voilà. En gros, c'est ça. Après, l'autre aspect, c'est, c'était quand je suis parti un an aux États-Unis après le bac. Minneapolis pour essayer de jouer au basket.
Mais j'étais vraiment dans le but de jouer au basket.
Moi, je voulais jouer avec Magic et puis battre Jordan, quoi. C'était, Voilà. Et quand je suis arrivé là-bas, en fait, j'avais déjà mon bac. Donc, j'avais le niveau scolaire d'aller en université, mais j'avais l'âge d'être en high school. Donc, j'étais un peu perdu entre les deux. Donc, j'ai continué à m'entraîner. Et quand je suis rentré en France, sur entraînement, en fait, que j'avais une fracture de fatigue. J'avais fait une pré-saison à Levallois et j'ai pas continué. Et donc, là, j'ai arrêté le basket et j'ai embrayé sur les études de kiné. Et de là, j'ai rencontré un prof d'ostéo qui était tellement passionné que ça m'a donné envie de faire la même chose. Et voilà.
C'est injuste le sport parce que je pense qu'à un moment donné, ton corps te dit « alors ça, c'est pour toi » ou « ça, bah non, pas toi en fait ».
À la fois, c'est injuste. Tu peux le prendre comme injuste, mais maintenant, je vais te raconter deux histoires. La première, c'est mon dernier stage de kiné à Saint-Maurice. C'est dans le traumato du sport. Et là, je vois un gars qui était en espoir avec moi à Levallois quand j'y étais. Je n'ai pas fait longtemps. Hein. J'ai fait deux ou trois semaines. Et il s'était luxé l'épaule. Et on discute un petit peu de qu'est-ce qu'étaient devenus les mecs qui étaient là-bas à l'époque, quoi. Et en gros, il y en avait deux qui avaient réussi à sortir. Je crois que c'était Thierry Zig et je ne me souviens plus de l'autre joueur. Mais il y en avait deux qui avaient réussi à sortir des espoirs. Et la plupart, ils étaient quoi en National 2, National 3. Il m'a même dit, même il y avait deux gars, ils étaient alcooliques au troquet. Donc, c'est à la fois, oui, c'est dur sur le moment. Et puis, c'est que certainement que la vie, elle a un autre chemin pour toi, quoi. Et quand je regarde maintenant par rapport à ce que j'avais toujours cette sensation équipe de France NBA, équipe de France NBA, c'était un peu mon objectif de vie. Et ce qui s'est passé dans ma vie maintenant avec le recul, c'est sans partir, sans aller sur la religion, sur quoi que ce soit, mais sur d'un point de vue chemin de vie, c'est vachement intéressant de regarder après. Donc, de pas s'arrêter au moment où t'es blessé. Et après, ça t'aide dans tous les obstacles que tu vas rencontrer face à la vie parce que tu as cette confiance de te dire qu'il y a quelque chose de peut-être pas plus mal qui va arriver, quoi.
Ok.
Voilà. C'est comme ça que j'ai appris à le prendre aussi en vivant aux États-Unis. Tu vois,
ah oui.
Avec la mentalité américaine, il y a vraiment cette sensation de vas-y, quoi, s'il y a des bonnes choses qui t'attendent, tu vois, et de toujours essayer de rester le plus positif possible.
C'est vrai que c'est un peu moins l'état d'esprit français. Ouais. En tout cas, c'est moins infusé, si tu veux, chez les Français. Et je pense qu'en plus, là, tu vis à Los Angeles où tu es vraiment dans une ville où
c'est particulier. Ouais. C'est même, comme tu dis, c'est peut-être même excessif dans ce truc-là. Des fois, ça devient lourd. Mais en même temps, ça a l'air un peu bête, un peu tout ce que tu veux, un peu gamin, mais ça marche, quoi.
Voilà. Ouais, c'est sûr.
Et si tu sais, l'état d'esprit, c'est ce qui fait tout, quoi.
Je voudrais essayer de revenir avec toi sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te décides à te lancer dans les études de kiné. Donc, tu fais des études de médecine, c'est ça?
Enfin, Non, pas du tout. Alors, tu vois, j'ai mon bac à 17 ans et demi. Ouais. Et j'étais au lycée à Sarcelles. Donc, j'ai mon bac, voilà, très bien. Et là, je me dis, en fait, à 14-15 ans, quand je voulais être en seconde, j'aurais pu aller au Racing. Et le Racing, par contre, il jouait dans le 13e et moi, j'étais là-haut dans le Val d'Oise. Donc, en discutant un petit peu avec ma mère, j'ai dit, non, c'est vrai qu'on va privilégier les études quand même. Tu vois, on était un peu lucide. Et au moment où j'ai eu le bac, j'avais jamais redoublé. Et j'avais rencontré ces correspondants américains qui étaient venus passer une semaine chez moi. Et moi, j'étais parti l'été d'avant à Minneapolis pendant un mois. Il avait un frère jumeau, donc il était revenu l'été du bac. Et on était, je crois qu'on était en Normandie et on déconnait un petit peu. Il me disait, mais écoute, viens passer un an à Minneapolis, quoi. Et donc, j'étais inscrit en première année de médecine à Bobigny. Et j'ai dit, non, je veux pas être toubib, je veux pas être médecin, c'est pas ce que je veux faire, je veux vraiment être kiné, tu vois, c'était vraiment, le kiné, il était imprégné en moi au même titre que Los Angeles. Et donc, je suis parti là-bas, j'ai fait une expérience de 9 mois en high school américaine. Et quand je suis revenu, en fait, j'étais censé aller aux États-Unis aussi pour réviser mon concours de kiné. J'ai révisé un petit peu, mais autant dire que j'avais pas forcément trop révisé, j'avais plutôt joué au basket. Donc, quand je suis rentré, j'ai fait l'école de prépa au CERF à Saint-Denis. Et j'ai eu le diplôme, j'ai eu le concours de Saint-Denis. Donc, j'ai fait toutes mes études à Saint-Denis. Voilà. Mais okay. dans ma tête, ce n'était pas médecine. Non, je savais vraiment que je voulais faire kiné. Voilà, c'était vraiment ce qui me plaisait.
Ok, et kiné dans le sport, tant qu'à faire, quoi.
Ouais, dans le sport. Alors, c'était marrant parce qu'après, quand tu fais tes études, tu découvres d'autres aspects, la neurologie, la pédiatrie, pas mal de choses. Donc, ça, pendant un petit moment des études, il y a eu un petit peu ce mouvement parce que je prenais plaisir à. C'est-à-dire, tu as des choses très, très gratifiantes, beaucoup plus gratifiantes d'aller faire remarcher quelqu'un que d'aller fixer une cheville sur un joueur NBA. Tu vois, il y a des choses qui sont. Mais c'était vraiment, ça me ramenait. Il y a toujours tout qui m'a ramené vers le sport, en fait.
Okay.
Les gens que j'ai rencontrés, les stages que j'ai faits, les opportunités que j'ai eues, ça m'a toujours ramené toujours vers le sport. Et voilà, quoi. Mais quand je suis parti à Los Angeles, j'étais plus du tout dans le sport. Ouais, il a fallu quand même 4-5 ans pour que ça. Mais c'est revenu vers moi, je suis même pas été le chercher.
Ah ouais?
Ouais. Non, j'ai jamais été chercher quoi que ce soit, en fait. C'est toujours venu naturellement.
C'est intéressant, tu vas me raconter ça, mais
ouais.
C'est quoi la décision de. Comment elle vient cette décision de partir à Los Angeles?
Elle vient.
Les Lakers, c'est ça?
Alors, je suis fan des Lakers. Je pense aussi nos générations, on était quand même abreuvés de Starkey et Hutch, de l'homme qui tombe à pic, enfin toutes les séries télé américaines. Et après le temps passé à Minneapolis, je rentre en France, je bosse et je pars avec mon meilleur ami. On part à Los Angeles pour 2 semaines et San Francisco pour 2 semaines. Et le premier jour, je me lève avec le décalage horaire, genre à 5h45. Et on est sur Venice Beach, là où ils ont tourné White Man Can't Jump. Juste là. Je crois qu'il n'avait pas encore été tourné, parce que c'était peut-être qu'il a été tourné. C'était en 92, c'était juste après les émeutes.
Ouais.
Donc, on arrive là-bas, je me lève le matin tout seul et je suis sur le boardwalk sur Venice. Et j'ai comme un moment qui s'arrête. Et là, je me dis, c'est là que je veux vivre. Voilà. Tout simplement. Alors, est-ce que, bien sûr, il y a Magic Johnson et les Lakers. Est-ce que c'est un endroit qui m'est apparu familier parce que je l'avais tellement vu dans les séries télé? Est-ce que c'est le soleil? Est-ce que c'est les palmiers? Je pense que c'est un ensemble de choses, mais il y a vraiment eu un moment, à ce moment-là, je m'en souviens très, très bien, comme un instant qui s'est figé et où j'ai vraiment pris conscience que, OK, c'est là que je veux vivre. Et à partir de maintenant, je fais tout pour venir vivre ici.
Et alors, comment ça s'est passé la suite alors?
Alors,
tu es aussi parti avec ta femme ou ta future femme?
C'était après. Mais donc, la suite, on est rentré, on a fait San Francisco, on est rentré. Je suis retourné une fois avec mon meilleur ami. On avait fait. Lui, il est parti en Floride après. Donc, je suis allé le voir à Noël en Floride. Je n'ai pas du tout aimé la Floride. Et après, j'y suis retourné avec ma femme pour lui dire. Parce que quand on a commencé à sortir ensemble, je lui ai dit, écoute, on sort ensemble, il n'y a pas de problème. Et moi, dans 5 ans, je suis à Los Angeles. Donc, je veux juste que tu le saches avant qu'on commence vraiment quoi que ce soit. Dans 5 ans, si tu veux être sérieuse avec moi, on part à Los Angeles. Donc, elle a fait, ouais, c'est ça, ouais. Et il y a 5 ans qui est arrivé. Et donc, on est parti, quoi. Voilà. On est parti à deux. Et je l'ai rencontré en école de kiné. Donc, elle est kiné ostéo comme moi. Et donc elle m'a suivi. C'est même elle qui a poussé un peu parce que ça traînait avec les papiers. Elle m'a dit écoute, viens, on y va. Et puis l'idée c'était vraiment bon, on serait rentré ensemble si ça avait pas marché. Je raconte l'histoire de l'ultimatum, mais je me souviens la dernière chance que j'avais de passer le diplôme, si je l'avais pas, on serait rentré en France. Mais l'idée c'était vraiment d'aller le faire jeune pour que si ça marche pas, tu rentres en France et que tu puisses encore continuer à faire des choses, quoi. Mais pas de pas vivre avec l'idée de pas avoir tenté le coup.
Ok.
Et donc, on est arrivé avec nos 6 valises, un peu de cash, et puis voilà. Et puis bon, on a démarré tant bien que mal. Ma première table de kiné, c'était une table que j'avais achetée chez Ikea. Dans les trucs, j'avais acheté 4 pieds à $35 et une table en bois. On mettait une couette dessus. Et puis voilà, quoi. On s'est démerdé, les petits boulots. Fallait repasser le diplôme. Mais tu pouvais pas repasser le diplôme si t'étais pas légal et tu pouvais pas être légal si t'avais pas le diplôme. Donc, t'avais un peu c'était le serpent qui se mordait la queue et à l'époque, c'était encore avant le 11 septembre, donc on a quand même réussi. On n'a jamais été illégal, on a toujours fait des allers-retours parce qu'on avait nos études d'ostéo qui continuaient. Et puis au fur et à mesure, ça a pris 2 ans et demi, bah, j'ai eu mon diplôme. On a commencé, j'ai ouvert mon cabinet. Et puis voilà, de fil en aiguille, l'aventure s'est écrite petit à petit, quoi.
Ok. Alors, j'ai une question que je me suis posée. Aujourd'hui, j'ai la réponse, mais je pense que je la pose aussi pour les gens qui ne savent pas. C'est quoi les nuances ou la différence entre la kiné et l'ostéo ?
La kiné et l'ostéo, d'accord. Alors, si tu… actuellement, c'est complètement différent. L'ostéo, ça va être… pour moi, c'est l'étape initiale du traitement. C'est-à-dire que tu vas faire ta révision de ton équilibrage des pneus, je vais prendre les images d'une voiture, les niveaux d'huile, comment elle s'ouvre, se ferme les portes. Voilà, tu vas manuellement aller faire les réglages pour que toute la mécanique, la tuyauterie, tout marche. À partir du moment où tu as une fondation qui est stable, tu vas pouvoir commencer à faire de la rééducation, de la kinésithérapie, pour rééduquer la personne à comment se tenir droite, comment utiliser ses muscles de la bonne façon pour protéger son dos, pour protéger son cou, ses épaules et tout ça. Donc, il y a une partie qui est beaucoup plus passive, passive par rapport au patient, qui est l'ostéo. Il subit et l'ostéo fait son travail de mécanicien. Et le kiné, c'est plus le prof qui va aller réapprendre, qui va aller apprendre au patient à comment utiliser son corps de la bonne façon et d'éviter les blessures.
Okay.
Et les deux, pour moi, j'ai jamais abandonné l'un ou l'autre. Je me souviens, en école d'ostéo, on nous disait, à partir du moment où t'es ostéo, t'es plus kiné. J'ai jamais abandonné l'un ou l'autre parce que les deux, pour moi, sont très, très complémentaires. Voilà.
Ok. D'accord.
Ça répondra aux questions.
Je pense que c'est un point, en tout cas, qui est intéressant, quoi, parce que.
Et souvent, ouais.
Non, mais je disais aussi, les gens ont tendance à les opposer, en fait, alors que pour moi, ils sont, comme tu le dis, en fait, très complémentaires, quoi.
Exactement. Alors, les deux peuvent très bien coexister ensemble. Et l'aspect de la kiné supplémentaire, c'est aussi quand tu as une opération, quand tu as un ligament croisé, une fracture du tibia, une prothèse de hanche. T'as vraiment besoin du kiné, là, pour le coup.
Ok. Pour revenir un petit peu à. Donc, tu me disais que tu avais fait 5 ans environ, c'est ça
donc,
des particuliers, c'est ça
Tu veux dire en France
aux Non, quand tu es arrivé aux États-Unis, tu disais.
Alors, aux États-Unis, j'ai fait un peu tout. J'ai fait serveur, j'ai fait un peu tous les petits jobs, et puis j'avais des patients petit à petit, patients privés, et puis il y a un kiné français qui nous a hébergés dès le début. Et on m'a dit, il y a 2 médecins français qui peuvent te sponsoriser pour ta carte verte. Un premier, c'était le docteur Lévy, et le deuxième, c'était le docteur Mazouz, et le premier docteur, je suis allé voir le premier docteur Lévy, et j'ai jamais été voir le second. Donc, ça a tout de suite collé, et c'est lui qui nous a permis, lui et sa femme, qui nous ont sponsorisé pour avoir la carte verte pour, toute la famille. Donc, j'ai travaillé 3 ans pour lui, sous sa licence. Et puis, à un moment, j'ai été volé de mes propres ailes. Voilà, donc la licence, oui, j'ai mis 2 ans et demi pour l'avoir. Donc, c'est pas pour les gens qui ont envie d'aller faire cette expérience, c'est pas facile, ça prend beaucoup de temps. Et je parlais anglais couramment parce que j'avais déjà passé 1 an aux États-Unis, donc je maîtrisais l'anglais. Et en fait, c'est quand même un parcours semé de pas mal d'embûches, quoi. Donc, faut s'accrocher, faut être motivé. Et une fois que tu avais ton diplôme, il faut aussi avoir la carte verte. Et là, c'était pareil, encore beaucoup de choses. La carte verte, on l'a eue 5 ans après, quoi.
Waouh.
On a eu le permis de travail très rapidement, mais là, la carte verte, c'était 5 ans après.
Donc, pendant 5 ans, vous n'êtes pas sûr potentiellement de rester dans le pays, quoi.
Pire que ça, parce qu'à un moment, au bout de 3 ans, mon avocat de l'époque me dit, tiens, l'immigration nous a renvoyé un papier, ils ont besoin de... Que tu prouves que tu parles bien anglais, alors que tu avais passé le diplôme en anglais. Hein. Mais envoie-moi un TOEFL. Donc, c'était un test d'anglais. Donc, j'envoie le TOEFL. Et en fait, c'était pas du tout ça. Il fallait refaire tout un diplôme avec le TOEFL et d'autres examens à passer pour qu'ils te donnent un diplôme que tu envoies à l'immigration et qu'ils te donnent le droit d'avoir la green card. C'était le dernier truc qui manquait. Donc, quand ils ont reçu que le TOEFL, ils ont pensé que je les prenais pour des cons. Et ils ont dit, j'ai reçu un papier, donc je pensais que c'était la carte verte. Non, non, you've been denied, vous avez été pas accepté, vous avez 2 jours pour quitter le territoire. Et je venais de monter mon cabinet. Donc voilà, donc sur le coup, l'avocat, je lui avais donné le dernier chèque un mois avant, il fait, je sais pas, ce qu'il y a rien. Donc on a dû trouver un autre avocat. Ma femme a trouvé un autre bon avocat qui on a payé une amende. On est resté sur le territoire, finalement, on l'a eu. Mais voilà, quoi, c'est long et fastidieux, quoi. C'est long et fastidieux.
Est-ce que c'est un pays qui est, d'une manière générale, accueillant pour les étrangers, pour les Français, notamment pour le boulot, les États-Unis?
Alors, on peut, à l'époque, moi, je suis arrivé, on est arrivé avant le 11 septembre.
Ouais.
En ce moment, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Nous, on a été bien accueillis, on est blanc, on est français. Donc, il y a une grosse communauté française sur Los Angeles. Je travaillais au sein d'un cabinet de français. Je suis pas sûr que tous les immigrants soient logés à la même enseigne. Mais de notre côté, si tu veux, on a été bien accueillis. La seule chose qu'on a eue, c'est quand il y a eu la guerre en Irak et que d'un seul coup, ça s'est retourné un peu contre les Français. Bon, il y avait deux, trois abrutis qui te sortaient un commentaire raciste ou tout ça, mais rien de grave, rien de méchant. Los Angeles, c'est quand même une bulle un petit peu par rapport au reste des États-Unis. C'est une ville cosmopolite. Il y a pas vraiment de gens, vraiment des gens vraiment de Los Angeles, il y en a pas beaucoup. Il y a des gens qui viennent de tous les horizons. Quand tu es à Los Angeles, les gens disent mais personne ne parle bien anglais à Los Angeles parce que tout le monde a plus ou moins un accent ou voilà. Donc on n'est pas dans un état et dans une ville qui est très discriminatoire, je dirais. Donc non, je vais te dire que nous, ça a pas été le plus gros problème.
Mais ça et passe pour, beaucoup par la.
Pour pardon, te donner,
vas-y, pardon.
Pour te donner un exemple, ce fameux diplôme que j'attendais pour avoir la carte verte, la dame avec qui je parlais, qui était en Virginie, elle le tenait, et en fait, elle voulait pas me le donner parce que j'étais français. Et un jour, à force d'appeler, elle n'était pas là, je suis tombé sur une autre personne. Et elle m'a dit, mais il est là, votre diplôme, il est juste sur le top de la pile. Je vous le mets au courrier, il arrive. Et alors que l'autre m'avait fait poireauter pendant 3 mois. Donc voilà, bon, mais ça, c'est des choses qui arrivent partout, tu vois. C'est pas juste. Donc je peux pas dire je peux dire plutôt, on a été plutôt bien accueillis, oui.
J'allais dire aussi, je pense qu'il y a pas mal de choses qui passent par la communauté d'une manière générale aux US, c'est-à-dire qu'il faut que tu ailles plutôt aller piocher, et je pense que c'est un peu ce que tu as fait aussi, vers les gens qui viennent du même pays que toi, quoi.
Ouais, oui et non, c'est très marrant parce que la communauté française, il y avait vraiment 2 types de communautés, une communauté de Français arrivés un peu avec leurs valises, un peu comme nous, et puis une communauté d'expatriés qui étaient envoyés par leur compagnie et avec beaucoup de choses. Et qui était là pour 3-4 ans. Donc, individuellement, toujours très bien, mais en groupe, des fois, un petit peu à taper sur le système américain, tout le temps, de pas trouver leur camembert ou tout ça. Donc, il y avait vraiment deux types, un petit peu, je dirais, de communauté française. Et nous, dès le début, ça a été vraiment essayer de... Bien sûr, on a des amis français, on a plein d'amis français et tout ça, mais c'était aussi essayer de s'intégrer. Et par contre, ça, c'est une chose que la communauté française fait. Il n'y a pas un petit Paris. Il n'y a pas un Little Paris où les Français, ils sont pas forcément... Ils sont éparpillés. Donc, il n'y a pas ce communautarisme, je dirais. Il n'est pas vraiment développé chez les Français à l'étranger.
Même en France, j'ai un
peu... Ouais, en France.
Pas vraiment. Ouais. T'as tendance à se mélanger pas mal, quoi. Mmh. Ok, je voulais, tu l'as fait très rapidement en fait, mais tout à l'heure au tout début de l'interview, mais que tu reviennes un petit peu sur comment t'as fait pour mettre un premier pied dans le sport. Tu parlais tout à l'heure que c'était des mecs qui venaient du cross, c'est ça?
Ouais, c'était très marrant. Alors déjà après les études, donc j'avais une fracture de fatigue au tibia, ça a été fixé par un ostéo. Et j'avais arrêté le basket. J'avais complètement, comme tu disais, à l'époque, c'était encore douloureux. Tu vois, ça m'avait quand même bien fait mal de me faire arrêter en plein parcours. Et j'avais réembrayé sur le rugby à force d'être le kiné d'une équipe de rugby à la SPTT Paris. j'allais à chaque entraînement, j'étais grand, un peu pas trop mal physiquement, et les mecs me disaient, écoute, t'es là à chaque entraînement, viens t'entraîner avec nous, tu vas voir, c'est sympa. Et j'ai commencé à jouer au rugby. Donc, quand je suis arrivé à Los Angeles, je jouais plus du tout au basket, je suivais même plus les Lakers, ça m'intéressait vraiment de loin. Et je jouais au rugby, donc j'ai joué au rugby là-bas pendant 2 ans. Et quand j'ai monté mon cabinet, je crois que ça devait être pas longtemps, 1 an et demi après, il y a donc Steve Boniface, un ancien pilote de motocross, qui a trouvé mon nom sur le consulat et qui a commencé à venir me voir et qui a commencé. Après, ça a toujours été par le bouche à oreille, en fait. Parce que je te disais, je suis jamais allé chercher quelqu'un ou quoi que ce soit. Ça s'est toujours fait par le bouche à oreille. Et les choses se sont faites vraiment petit à petit, quoi.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et donc, eux en premier. Après, j'ai eu le plaisir de soigner, en fait, la mère des propriétaires des Sacramento Kings. Qui, pareil, je l'ai soigné une fois, ça lui a plu. Elle m'a envoyé sa fille, elle m'a envoyé son fils. Le fils était celui qui s'occupait de l'équipe. Ça s'est très bien passé. Le patient m'a dit, écoute, on a une joueuse, elle a un problème de ligament latéral interne. Ils n'arrivent pas à la soigner. Est-ce que tu peux aller à Sacramento pour t'occuper d'elle? Ok, bon, j'ai pris l'avion, je suis monté. Une séance, ça s'est super bien passé. Après, ils ont commencé à me faire venir pour… c'était à d'autres joueurs, des joueurs des Kings. Et entre-temps, il y a eu Ronnie Turiaf qui est arrivé. Donc,
comment tu l'as connu, Ronnie?
Ronnie, vraiment, c'est… Non, je ne connaissais pas du tout. Je ne savais même pas qu'il était… Je suivais tellement peu le basket, je ne savais même pas. Pour te dire, je n'ai même pas été au forum. Je n'allais pas voir les matchs, j'ai même pas allé voir un match des Lakers, ça m'intéressait plus. Je l'avais mis derrière.
C'était une blessure pour toi, quoi.
Exactement ça.
Ok.
Exactement ça. Et en fait, donc mon premier patient à Los Angeles, Christophe Carmaran, c'était le correspondant de l'équipe pour la NBA. Il était à Los Angeles. Donc encore, tu vois la coïncidence. Donc on a très vite sympathisé et il me dit voilà, il y a un Laker, les Lakers sont draftés un Français, le mec est super bon, viens on va le voir jouer. Je fais ok, d'accord, et j'avais aucune idée d'où j'allais arriver. Et on est à la Summer League, à l'époque elle était à Long Beach, elle était pas à Las Vegas, et là t'as Ronnie Turiaf, t'as un Français qui dunk sur tout le monde, qui a énormément d'énergie, enfin tu tombes amoureux du gars, quoi. Tu le vois jouer, t'es obligé, quoi. On le rencontre à la fin, ok, et on se dit bon, il faudrait qu'on se fasse un resto vendredi. Et le vendredi, c'est là où il est diagnostiqué avec son aorte élargie. Donc, 6 mois plus tard, il revient sur Los Angeles. Christophe me rappelle. On fait finalement ce dîner. Je les emmène dans un resto français chez un pote que je connais bien. Ronnie, il arrive des Yakima, je ne sais pas quoi, l'équipe de CBA. Donc, il a 2 sacs, sa veste, il n'a rien, quoi. Il avait passé 6 mois à se rééduquer et à se remettre en forme. Et dans le resto français, il me fait « Tu crois que le mec, il a du foie gras ?» Donc, j'appelle mon pote et il me fait « Bah écoute, ouais, j'en ai au congélo, j'ai du foie gras frais. » Je fais « Ça te dérange de nous le faire ?» Et de là, si tu veux, ça a créé une atmosphère, ça lui a tellement fait plaisir de pouvoir se manger ce foie gras frais que déjà, ça a bien détendu l'atmosphère, tu vois, on était bien. Et à l'époque, j'avais une Mustang Fastback 66. Et elle était garée devant le, c'était ma voiture de tous les jours. Et elle était garée devant le restaurant. Et quand on sort, il voit ça. On voulait aller boire un coup. Et il m'a dit, écoute, c'est à qui cette voiture? Je sais pas, c'est la mienne. Et il fait, je veux absolument le monter dedans. Donc on monte dedans. On va boire un coup ensemble. Et puis je crois qu'on a fini la soirée à 2h du mat. Et puis on a sympathisé. On s'est échangé notre numéro. Et puis à un moment, quand il a emménagé, il m'appelle, il était avec des nanas et il me dit, écoute, elles veulent me faire acheter un canapé à 3 000 $, ça me paraît cher. Je lui fais, écoute, dealer stop, viens, on va aller à Ikea tranquille, t'inquiète pas. Et puis avec 3 000 $, il a équipé toute sa maison, tu vois, au tout début. Et puis, au fur et à mesure, en fait, si tu veux, on était un peu sa famille. Donc, il dormait, il venait à la maison, il s'occupait de mes gosses, voilà. Et on a sympathisé, quoi.
Ouais, génial.
Donc, de là, au même restaurant, on a rencontré Boris Diaw. Voilà. Et Boris, enfin, j'avais commencé à travailler sur Ronnie parce qu'il a des petits problèmes de hanche. Mais vraiment, celui dont je me suis occupé vraiment en premier, c'était Boris quand il a eu son problème de dos en 2007, au moment du All-Star Game de Las Vegas. Mmh. Et entre-temps, bah, je rencontrais Tony, mais j'ai jamais travaillé sur Tony avant 2009, en fait. Voilà. Et à partir du moment où je suis allé avec eux en équipe de France, bah, au bout de 2 semaines, Tony s'est tordu la cheville à Strasbourg. Et puis, c'est sans Tony l'a rappelé, je suis parti avec lui, on avait fait du bon boulot. Et de là, j'ai rencontré Pop. Et puis, Tony a demandé à ce que je continue à m'occuper de lui. Et puis voilà, les choses.
Alors, Pop, le coach des Spurs. Hein. Le coach de l'équipe de Tony. OK. Ah oui, donc, de fil en aiguille, vraiment, c'est que des… Bah, en fait, tu fais du bon taf. J'imagine que tu fais du bon taf avec les sportifs. Donc, forcément, ils ont envie de recommander.
Ouais. Et c'est ça qui est important aussi, qui est intéressant. C'est à partir du moment où je pense que tu essayes de faire de ton mieux, tu fais le meilleur boulot possible… À un moment, la reconnaissance, elle va arriver. C'est-à-dire que si tu essayes de pousser, c'est pas. Enfin, moi, c'était pas mon parti. Mon parti, ça a toujours été, en fait, de laisser les choses venir à moi, d'avoir cette confiance en ce que tu fais avec tes mains et tout ça. Et puis, si tu m'avais demandé il y a 20 ans, est-ce que tu aurais été content d'avoir juste un joueur NBA? J'aurais dit oui, bien sûr. Voilà. Et maintenant, j'en ai beaucoup plus, mais puis je travaille avec beaucoup d'autres athlètes. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir confiance en soi et puis laisser venir les choses tranquillement, où que tu sois, peu importe où tu es.
Voilà. Tu t'es aussi retrouvé dans la fameuse campagne où l'équipe de France de basket a gagné le championnat d'Europe. Ouais. Fabuleux, quoi. Voilà. Et t'étais dans l'équipe, en fait.
Le but en 2009, quand on commence à Vichy tous ensemble, c'est de gagner un titre. C'est de se qualifier pour les Jeux Olympiques, que cette génération se qualifie, que Tony aille aux Jeux Olympiques, Tony, Boris, Ronnie, Flo, que cette génération aille aux Jeux Olympiques et qu'on gagne un titre. Et quand tu regardes ce parcours aussi, il est assez extraordinaire parce que donc, on commence à Vichy, échauffement 2 semaines. Il y avait Johan Petro, il y avait plein d'autres joueurs qui étaient là, qui ont démarré l'aventure. Et quand Tony s'est blessé, donc moi, je l'ai rééduqué pendant les 7 premiers jours, on avait la chance, il y avait le préparateur physique des Spurs qui était en fait un grand amateur de rugby. Donc, on a vite sympathisé sur rugby et un grand amateur de vin et de bonne bouffe. Donc, on a très vite sympathisé, on ne parlait pas basket. Et très vite, il leur a dit, écoutez les gars… Tony, il va bien, parce qu'au bout de 7 jours, sa cheville, elle était sèche, il allait bien, il commençait à reprendre vraiment bien. Et eux ne croyaient pas, ils pensaient qu'on allait trop vite avec lui. Parce qu'en 2009, il fallait se qualifier pour aller à l'Euro.
Ouais.
Pas encore qualifié, il fallait se qualifier pour aller à l'Euro. Et il leur dit, il y a un gars qui est là-bas qui fait du travail aussi bien que ce qu'on ferait nous, quoi. Et les mecs voulaient rien entendre, donc c'est pour ça qu'on a dû aller à San Antonio.
Juste pour remettre un peu de contexte, mais il y a toujours eu un peu de bisbille entre les équipes NBA, les joueurs français et les joueurs d'une manière générale NBA et leurs équipes,
surtout
en fait,
Tony.
En franchise.
Surtout Tony, c'était vraiment surtout Tony. Et puis surtout, Tony avait la mauvaise habitude de se blesser. Après, il a arrêté, donc ça s'est calmé. Mais il avait toujours quand même une certaine habitude de soit se péter un doigt, soit se tordre une cheville… Et donc, les Spurs n'avaient pas confiance du tout, quoi. Donc, ça a permis quelque part, et aussi le fait que j'ai un diplôme américain, que je parle anglais. La discussion avec Pop a été vachement intéressante parce que, mais on a échangé, mais je me suis pas laissé faire non plus. À un moment, il me disait, tu comprends, on le paye 66 millions de dollars. Je lui ai dit, mais non, il a déjà fait 3 ans, donc il y a plus de 33. Donc, il était un peu… Et puis après, je lui avais dit, écoute, tu sais, Zidane, il a retired, il est parti à la retraite. Donc, le sportif préféré des Français, c'est Tony. Hein. On veut en prendre soin. Pour nous, c'est très important. Et puis, tu sais, il y a des joueurs de foot, sur un transfert, ils valent autant que ton équipe. Donc, on sait prendre soin des chevilles. Et à la fin, je lui ai dit, comme je savais qu'il aimait le Bourgogne, je lui ai dit, écoute, en plus, moi, je viens de Bourgogne, mes grands-parents sont de Bourgogne, donc je peux pas être trop mauvais, quoi. Donc, sur le ton de l'humour, mais en même temps un peu sérieux, on a très bien connecté et il m'a tout de suite, non, mais t'inquiète, je comprends, mais tu comprends aussi notre position. Et puis, quand il a vu la cheville de Tony et que tout allait bien, bah, il m'a laissé continuer le travail, quoi. Et donc, à partir de là, bah, Tony était pas là pour faire les qualifs. Donc, les gars comme Petro et Antoine Dio et tout ça, et c'est eux qui ont gagné le premier match en Italie, qui était dur. C'était en Italie, ouais. En Sardaigne, à Cagliari, je crois. Enfin, c'était un truc…
Dans une salle…
sans clim et tout ça. Et nous, on écoutait le match au retour de… On était rentrés à Los Angeles. On écoutait le match avec le frère de Tony, avec TJ, qui avait le téléphone en allant à l'aéroport pour retourner à Pau. Et donc, bah voilà. Donc, quand on a démarré comme ça et que tu vois qu'à la fin, on est champion d'Europe avec un Johan Petro, avec Alessia Ginsa, on ne peut pas dire que c'était la meilleure équipe qu'on ait eue. Je pense que c'était 2011 avec Joachim. Et je pense que si on avait eu Ronny Turiaf, s'il ne s'était pas cassé la main, on battait les Espagnols. Mais donc, cette aventure, c'était voilà, le 2013, le championnat d'Europe, c'était exceptionnel. Parce que le match contre l'Espagne était tellement intense et avec la prolongation, enfin tout ce qui s'est passé, que une fois qu'on a gagné ce match et avec l'expérience qu'on avait eue de 2011 et de 2012, on savait les mecs ont pas éclaté de joie. Quand tu vois ce match, tu es censé, tout le monde s'est vite remis dans le sens et la Lituanie jusqu'au coup de sifflet final, personne n'a rien lâché. Le mot c'était on lâche rien tant que le match n'est pas fini. Mais quelque part en nous, on savait qu'on allait battre la Lituanie à partir de ce moment-là. Bien, tu vois, chair de poule. Donc oui, c'était une super super aventure. Et puis l'année d'après, Tony, les Spurs gagnent le titre aussi.
Ouais, en plus.
Non, c'est beaucoup de belles aventures.
Et si je me trompe pas, en plus, oui, c'est ça, c'est cette année-là où, enfin, en 2013, où Tony perd. La finale NBA à la toute dernière seconde.
Enfin. À 23 secondes, il est MVP des finales. Ça fait donc son quatrième titre et il passe un été de ouf. Et en 23 secondes, t'as Ray Allen dans le corner qui met un 3 points et qui fout la merde, quoi. Mais ouais, j'étais là-bas parce que j'étais avec Tony. Donc le match 6 et le match 7, j'étais là-bas. C'était terrible. Et donc d'autant plus. Cette déception du titre NBA et cette victoire en 2013, elle te fait un bond émotionnel énorme. Et je pense que derrière, ça capitalise aussi pour enchaîner sur 2014 pour Tony.
J'avais une question, en fait. Qu'est-ce qui, selon toi, et en fait, en tant que ostéo-kiné, alors, parce que tu ne travailles pas qu'avec du joueur NBA, tu travailles aussi avec des joueurs de tennis. Hein,
joueur de tennis, pas trop, j'en ai eu qu'une. Mais c'est vraiment... hockey sur glace, baseball, football américain. Et maintenant, j'ai même des jeunes joueurs français qui jouent. Il y en a un qui joue en Espagne, c'est Jules Koundé. Des joueurs français de foot qui viennent faire leur préparation pendant l'été à Los Angeles.
Qu'est-ce qui, selon toi, pour tous ces joueurs de très haut niveau, d'un point de vue physiologique et notamment comme Tony Parker, fait qu'ils sont différents du reste du monde?
Alors, c'est une très, très, très bonne question. Et c'est marrant parce qu'à la fois, il n'y a pas grand-chose. Enfin, entendons-nous bien. À chaque fois, quand tu fais partie du 1%, j'appelle ça le 1% au niveau athlétique, tu es quand même, tu as des prédispositions qui sont exceptionnelles, que ce soit génétique, que ce soit la taille, comme un Rudy Gobert, sa taille, son envergure. Voilà. Maintenant, il faut quand même, malgré ce talent, malgré cette aubaine génétique, tu as besoin d'aller poser toutes les pièces du puzzle ensemble. Tony, ce qui faisait sa différence, il y avait deux choses. Il y avait son explosivité. Donc, si tu regardes pour un joueur NBA, Tony, il n'est pas grand, il fait 1m87. Il n'est pas forcément grand, c'est un meneur. Par contre, en termes d'explosivité horizontale, en vitesse pure, il aurait très bien pu, certainement, s'il avait travaillé pour être sprinter, très bien pu descendre en dessous les 10 secondes, je pense, personnellement. Et l'autre aspect de Tony Parker qui fait que ça a été Tony Parker, c'est son mindset, c'est son mental. Voilà. Donc, la troisième chose, pourquoi Tony Parker est Tony Parker par rapport à d'autres meneurs, c'est aussi à un moment ou à un autre, à quel point tu aimes ce que tu fais. Tony Parker a toujours été amoureux du basket, passionné par le basket. Donc, quand tu commences à empiler amour du basket, donc quand tu es à la bonne place, que tu fais exactement ce que tu fais, que tu as un mindset de gagnant et que tu n'es pas feignant et que tu vas aller bosser, tu vas faire ce qu'il faut, et qu'en plus, tu as une petite disposition génétique ou naturelle qui va te favoriser en tant qu'athlète, bah, tu as un peu un espèce d'équilibre parfait. J'ai tendance à assimiler ça un petit peu comme le Trivial Pursuit. Tu sais, il faut que tu collectes les camemberts pour avoir ton truc entier. Tu rajoutes la chance d'être tombé chez les Spurs. Voilà, avec un Popovich qui l'a drivé, qui l'a éduqué, qui l'a... Voilà, tu as presque le mix parfait, la recette parfaite pour faire un champion. Maintenant, il y a plein de gens qui sont passés chez les Spurs qui n'ont pas été comme Tony Parker.
Ouais, j'allais dire aussi, il est tombé dans une équipe à un moment donné où il n'avait personne devant lui. Ouais, il n'avait pas un titulaire très fort, quoi.
Il est tombé dans une équipe où on lui a fait confiance à 19 ans. Mmh. Et c'est rare.
Ça, c'est pas tous les joueurs, ouais, c'est clair.
Tu prends Steph Curry. À un moment, les Golden State Warriors ont décidé de laisser partir Monta Ellis, qui jouait super bien, pour que Curry se développe. Donc, ça nécessite quand même beaucoup de facteurs pour arriver à ce niveau-là. Et de travail, énormément de travail. Hein, ça, y a pas photo, quoi. Mais c'est pareil pour tout. C'est pareil pour tous les métiers. Tu vois, à partir du moment où déjà, je pense que la première partie, si tu es vraiment passionné par ce que tu fais, si c'est vraiment ton truc et tu rentres dedans, ça va de toute façon être beaucoup plus facile et tu as quand même beaucoup plus de chances que ça marche pour toi si tu fais quelque chose qui te plaît. Parce que les gens vont le ressentir, les gens autour de toi, tu vas servir un petit peu de locomotive à côté des gens qui sont autour de toi.
Tu parlais tout à l'heure du mental de Tony Parker. Est-ce que tu as aussi, toi, en tant que médecin, on va dire, qui soigne le corps, un rôle à jouer d'un point de vue psychologique et mental ?
Alors, tu as un petit rôle à jouer. Encore une fois, il faut faire attention. J'ai vu pas mal de joueurs se brûler parce qu'ils prenaient quelqu'un qui avait un peu tous les rôles. Donc, moi, je suis kiné, je suis ostéo. Je peux planter quelques graines en termes de préparation physique. Je peux planter quelques petites graines en termes de nutrition. Je peux planter des graines en termes de état d'esprit, santé mentale. Mais je ne suis pas psy, je ne suis pas coach mental. C'est pas ma force. Par contre, je peux orienter en tant qu'ostéo. Tu es censé être capable d'orienter le patient vers un professionnel qui va pouvoir l'aider. Ça, c'est, je dirais, pour un patient ou pour un athlète qui a des vrais soucis, qui est pas bien, qui est en dépression. Aux États-Unis, ils appellent ça mental health, santé mentale, parce que, en général, les gens sont déprimés. Hein, faut appeler un chat un chat. Et donc, être capable déjà de le déceler et de le renvoyer vers quelqu'un d'autre, ça, c'est un travail en tant qu'ostéo, c'est ce que tu es censé faire. Quand tu es au contact de l'athlète tous les jours, tu as forcément des discussions avec lui. Donc, ça marche dans les deux sens. Moi, je sais qu'avec Tony, dans les 5 ans qu'on a passé ensemble, vraiment, où on était, je le voyais toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines à San Antonio et on passait l'été en France avec l'équipe de France. Je sais qu'il y a eu un échange en fait, c'est-à-dire que lui m'a apporté et moi je lui ai apporté. Maintenant, t'as d'autres patients où tout de suite, avant même de les soigner physiquement, ça a été, écoute, tu vas pas bien, t'as perdu ton grand-père, t'as perdu ça, t'as eu plein de problèmes cette année. Tu vas d'abord voir ma collègue. Tu prends 2-3 semaines pour bosser avec elle, tu règles déjà ça avant même de venir travailler avec moi. Donc ça, c'est des, tu vois, faut être suffisamment humble, je dirais, pour laisser le patient, la star NBA, partir avec quelqu'un d'autre parce qu'il va revenir, il va être d'autant plus, comment dire, ça c'est le problème.
Performant, c'est ça que tu voulais
dire ? Non, pas performant, mais il va te remercier d'autant plus. Ah.
Grateful, tu voulais dire,
grateful,
c'est ça?
Ouais, merci. Mais José, je voulais pas le dire. Parce que après, on va me prendre pour Vandamme. Mais il va être d'autant plus grateful et aware.
Ça t'en rajoute.
Que tu l'as pas, que t'as pas essayé de te l'accaparer, que tu l'as laissé partir et aller travailler avec quelqu'un d'autre. Et ça te paye des dividendes, mais maxi. Parce qu'il voit que le gars, t'es pas sur lui pour lui. Tu penses vraiment à l'humain. Donc, Donc voilà, oui, t'as un rôle, mais il faut savoir où est-ce qu'il s'arrête, quoi. Et dans les deux sens, eux t'aident aussi. Moi, je sais que voilà, ça m'a vraiment énormément fait progresser d'être au contact de Tony, de tous ces gars-là, de Boris. Là, j'ai des joueurs en ce moment. J'ai un joueur de hockey, la Piqué Subban. Le mec est extraordinaire. Il est extraordinaire en termes d'intensité, de travail. Voilà, quoi. Et puis, des fois, moi, ce qui m'a aussi beaucoup aidé à l'époque, c'était une patiente qui avait 74 ans. Et les choses se passaient déjà très bien pour moi. Et j'avais toujours cet esprit un petit peu français de me dire, ah, putain, il y a quelque chose qui va arriver et ça va s'arrêter. Et elle me dit, mais pourquoi tu penses comme ça? Peut-être que c'est pourquoi tu penses au pire. Il peut aussi se passer mieux, tu vois. Et le moment où elle m'a dit ça, il y a eu une espèce de déclic aussi dans ma tête où j'ai commencé à avoir un mindset complètement différent et à me libérer un petit peu de ce poids, de cette peur qui te faisait dire que parce que ça se passait bien, il y allait avoir quelque chose qui allait tomber dessus, tu vois.
Très judéo-chrétien, hein, comme tu vois le truc.
Très lourd, très lourd. Donc ça, c'est bien aussi, ça a permis de libérer des choses, tu vois. Mais voilà, donc tu apprends, enfin, je vais rien inventer, mais on apprend de nos patients de façon générale, aussi bien que ça que j'aime bien aussi, c'est cet échange dans les relations qu'on a avec nos patients, quoi.
Tu disais que tu as appris beaucoup aux côtés de Tony, par exemple. Qu'est-ce que tu as appris à vivre à côté d'un gars comme lui, quoi, à titre perso?
Le souci du détail. Qui moi m'a fait progresser, le souci du détail, la ponctualité. Je vois énormément de jeunes joueurs qui veulent qui aspirent à être great, qui aspirent à être les meilleurs possibles, mais qui sont pas capables d'être à l'heure. Ça commence par ça, ça commence par être responsable par rapport à ça, l'organisation, les objectifs fixés et cassés en petits objectifs pour atteindre le gros objectif, ça, la foi en lui, pas lui il parle beaucoup des dieux du basket. Moi personnellement, je suis pas organisé sur une religion organisée comme on peut l'avoir. C'est un peu plus spirituel, mais sur cette foi justement que les choses vont être meilleures, que ça va aller, qu'on lâche rien. Et c'est ce vrai aspect de rien lâcher. Et quelque part, on s'est aussi retrouvé là, parce que moi, mon parcours de rien lâcher par rapport aux obstacles pour avoir mon diplôme, pour arriver aux États-Unis, on s'est vraiment retrouvé dans ce... À partir du moment où moi, j'avais eu mon diplôme, si tu veux, ma trajectoire a été lancée, j'avais ouvert mon cabinet, mais d'un seul coup, il est venu un peu avec Boris et Ronnie me redonner un challenge avec eux, en me collant à eux, en me collant à Vincent Collet et à tout notre staff, d'aller rechercher un challenge 5 ans plus tard, d'aller chercher cette qualification olympique et ce titre de champion, cette médaille d'or de champion d'Europe. Donc, ce parcours, en américain, on appelle ça une journey, la journée, ce parcours qu'on a eu tous ensemble, si tu veux, on a tous grandi là, par rapport à ça, quoi. On reste connecté complètement par ça, quoi. Et c'est des choses superbes à vivre, quoi.
Et alors, moi, je te vois beaucoup, tu fais beaucoup travailler. J'avais une question peut-être qui est très, un point de détail, en fait, mais ouais. ça m'a, je me souviens très bien, j'étais allé voir un match de préparation de l'équipe de France et j'avais vu qu'en fait, tu faisais, alors c'était toi sans doute qui faisais ta fétonie sur des ballons sur les WAF, c'est ça?
Les WAF, ouais. Alors, c'est les WAF pour décrire, c'est... Ici aux États-Unis, ils les décrivent comme des implants mammaires. Donc c'est une espèce de
ballon,
gonflable avec un pivot central en fait où tu as le pied qui repose. Mais tu n'es pas obligé de travailler qu'en appui podal. Tu peux travailler sur tes fesses, tu peux travailler à plat ventre. Et en fait, bah, Tony, il lui manquait deux ligaments. Je ne me souviens plus si c'est à gauche ou à droite, mais il lui manquait deux ligaments sur trois d'un côté et un sur trois de l'autre côté. Donc la clé en fait, c'était vraiment pour avec lui de travailler toujours sa proprioception, ce travail d'équilibre, ce travail d'activation neuromusculaire au niveau moyen fessier, sa chaîne fessier, pour qu'il puisse à travers la force de ses hanches compenser ses faiblesses au niveau des chevilles. Donc faut savoir aussi qu'il était strappé, Donc il y a, voilà, on avait tout, tout ce, cette petite routine de travail qui lui plaisait bien, qui moi me m'allait bien aussi et qui était à but en fait préventif avant chaque match, d'être sûr que les chevilles soient bien activées, qu'elles soient pas endormies. Et en fait, au fur et à mesure, bah, il a gardé cette routine jusqu'à 2014, je crois. Après, je crois qu'ils ont eu des nouveaux kinés, donc ça, ils avaient changé un peu. Mais il, voilà, il avait vraiment, vraiment, il était, c'était notre routine. Et on, ça, c'est un autre aspect. Tout à l'heure, quand on parlait de ce qu'il m'a appris, c'est qu'une fois que t'as trouvé, en fait, pour un athlète, une fois que t'as trouvé les choses qui allaient bien, ça fait pas forcément de sens de tout changer. Parce qu'il y a une nouvelle technique, parce qu'il y a une nouvelle méthode. S'il y a quelque chose qui est important, à partir du moment où tu sens qu'il y a quelque chose qui marche pour toi et que ça marche, essaye de t'y tenir. Tu peux toujours changer une ou deux petites choses là, mais ne change pas tout. Parce que ton corps, il va aussi changer et c'est pas forcément une bonne chose, quoi. Donc, voilà, Tony était aussi très, très discipliné. Une fois qu'il avait son schéma, son travail, il n'en bougeait pas. Et ça te permet aussi de pas forcément être superstitieux parce que tu sais ce que tu fais, tu sais le travail que tu as mis pour en arriver là. Et ça te libère tellement de place au niveau de l'esprit que voilà. Et donc, bah, j'utilise beaucoup les WAF. C'est vraiment, vraiment un outil pour moi qui est super intéressant.
Pour reparler un petit peu de l'avenir, la NBA est censée reprendre fin juillet.
Alors début juillet parce que
début juillet pour les camps, c'est ça.
Voilà. Et moi, je suis censé, je vais le savoir ce week-end ou d'ici 2-3 jours. Normalement, je suis censé aller avec Rudy et être bloqué avec lui, avec les Jazz pour jusqu'à temps qu'il gagne le titre ou qu'il soit éliminé.
Parce qu'en gros, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ils vont rassembler tout le monde à Disney World, c'est ça.
C'est ça. Orlando. L'Aqua Boulevard. Et tout le monde dans l'Aqua Boulevard, un peu plus grand. Mais en gros, on va être répartis sur ce que j'ai lu, hein, parce que j'ai pas tout lu. J'attends de savoir vraiment si j'y vais ou pas. Mais il va y avoir trois hôtels. Donc les huit premières équipes, les quatre premières équipes, je crois, de chaque conférence, quatre ou cinq premières équipes de chaque conférence vont se retrouver dans le même hôtel. Il y aura un autre hôtel avec les quatre dernières. Et un autre hôtel avec ceux qui se battent pour faire les playoffs. Donc, on va être divisé sur trois hôtels. Mais tout ça, c'est au sein d'un même groupe. Voilà, on va passer
pendant… Sur la quarantaine, quoi.
La quarantaine. Et tu ne peux pas… Je crois qu'ils commenceront à faire venir les familles qu'après le premier tour des playoffs. Parce qu'après le premier tour des playoffs, donc il reste… C'est quoi? C'est les… quart de finale.
Ouais.
Donc, il restera 8 équipes.
Ouais.
Ouais. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait prof de maths. Ça va être très intéressant, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc, ça n'a pas encore été complètement validé, mais je pense que ça va se faire. Mais voilà,
surtout ouais, y a
de grosses tensions sociales. Ouais. Ça va être très intéressant, quoi. Je pense que certains gars à qui j'ai parlé sont très excités, certains sont un peu moins. Je pense que ça va être un moment unique à vivre, encore une fois, et que le fait d'être tous ensemble, ça va peut-être leur permettre aussi de s'aligner sur un même mot d'ordre, quoi. Là, on voit un peu des distensions entre Kyrie Irving et d'autres joueurs et des anciens joueurs et tout ça. Je pense que ça va peut-être leur permettre un peu à ne faire qu'un et de pouvoir envoyer vraiment du gros message, quoi.
Ouais, parce que pour expliquer un peu, avec Black Lives Matter, il y a une partie des joueurs qui disent, moi, je veux pas retourner jouer et juste m'asseoir et faire la grève, en gros. Hein,
pour le message de Carrie, il fait beaucoup de sens. En gros, il dit, donc en gros, vous allez enfermer des blagues dans une bulle pour faire du spectacle, alors que il y a tout un mouvement qui est en train de se lancer. Et en gros, on va divertir le peuple, quoi. Donc voilà, ça c'est son message et il fait du sens. De ce message-là, il y a eu la question sur les propriétaires. Qu'est-ce que vous faites? Parce que voilà, nous on va essayer de donner dans nos communautés, mais qu'est-ce que vous allez faire? Ce qui est légitime, je pense. Après, ce qui fait un peu bizarre, c'est que si tu compares la NFL et la NBA, La NBA, c'est probablement la ligue la plus progressiste, la ligue qui a fait les premiers pas en avant, et pas que sur les Blacks, elle a fait aussi sur les femmes, sur beaucoup de choses. L'argument du côté opposé, c'est de dire on va être le sport majeur exposé, on va justement avoir une très très belle tribune pour parler de tout ça. Et l'argent qui va être généré va permettre d'aller aider justement les communautés les plus à risque et les plus touchées par tous les problèmes. Donc voilà, mais c'est ce qui est bien, c'est que là en ce moment, ils ont essayé, tu as toujours des casseurs et tout ça, mais il n'y en a pas vraiment eu tant que ça. Mais que nous, ce qu'on peut sentir à Los Angeles, c'est qu'il y a une vraie discussion qui est en train de s'installer, il y a un vrai mouvement qui est en train de s'installer, qui n'est pas encore complètement politisé. Et c'est très organique, ça se passe vraiment, vraiment bien. Et voilà, donc on va voir les suites qui vont se passer. Mais personnellement, moi, je pense que c'est très, très bien pour eux de jouer. Et que justement, ils vont pouvoir tirer profit de cette fenêtre, de cette exposition pour aller débattre de beaucoup de choses, quoi. Et je pense qu'ils vont pouvoir impacter beaucoup, beaucoup de gens.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Merci beaucoup Fabrice.
Ouais, pas de problème, avec plaisir.
Je vais mettre ton Insta dans les notes de l'épisode. D'accord. Comme ça si les gens veulent suivre un petit peu tes aventures avec tes athlètes.
Ouais. Super.
Et puis tes aventures avec peut-être à Orlando de cette là dans la bulle.
Ouais, j'en saurai plus vraiment dans 3 jours, donc on va voir ça.
En tout cas, merci. Un grand merci à toi, c'était passionnant.
Super.
À plus.
Ouais.